Donc ce soir, nous avons donc Michel Auvray qui est avec nous, qui est un historien, qui s'est intéressé depuis longtemps sur tout ce qui était caserne, service national, déserteur, insoumis, depuis quand même pas mal d'années.
Quelques-unes. J'étais insoumis en 72, donc ça fait longtemps.
Ça aide,
ça fait une trentaine d'années, oui. J'ai fait l'histoire des insoumis, j'ai fait l'histoire du service militaire notamment.
Eh bien, l'histoire se rejoint avec nous aujourd'hui, donc c'est très bien.
J'ai rédigé. Faire l'histoire, on l'a fait tous.
Ouais. On va essayer. Donc ensuite, Bernard, donc, qui nous fera donc un... Enfin, il y en a qui le connaissent, nous on ne le connaît pas. Donc pour restituer Bernard Chardonneau, il s'est aussi intéressé aux différents membres des objecteurs de conscience. Donc il va pouvoir nous faire un petit peu lever les questions de fond qui sont posées, plusieurs idées majeures. Et on a enfin Cédric, qui au niveau du collectif sans nous est bien connu aussi. Tout le monde ne le connaît pas. Lui, entre autres, il s'est beaucoup intéressé sur toute la question législative et sur tout ce qui a existé en termes de cessation du service national, des textes de loi précis, des contradictions, des absurdités qui pouvaient nous servir en termes d'argumentaire. Donc son intervention sera intéressante. Et puis moi, je vais essayer de polisser un petit peu tout ça. Mais ça sera... Le but, c'est qu'il y ait des questions de fond qui soient posées, des réponses qui soient, en tout cas, soulevées. On n'apportera pas, je pense, ce soir une réponse fixe à notre débat, du fait de l'absence de personnes représentant l'État, déjà. Ça aurait été intéressant qu'il soit là, ceci dit. Donc on va déjà essayer de voir de quelle manière on peut leur apporter des documents, des textes. Il y en a, ils sont où?
Non mais attends, ça c'est tout nouveau, ça vient de sortir, hein, ça.
Ah ouais, ok. Ceci dit, bon, les RG nous connaissent, hein, donc là-dessus on peut prendre des photos, on peut filmer, il n'y a pas de problème. Voilà, donc Michel, à vous la parole. Comment vous le sentez?
Oh oui, je crois que je vais faire court, enfin, on m'avait demandé un quart d'heure ou 20 minutes. Il y en a ici, certains qui savent que ça peut durer 2 heures sans interruption. On tend à éviter, et non, il me semble que l'essentiel. Puisque je crois que la majorité d'entre vous se loin du collectif, ça fait erreur, c'est d'essayer de comprendre où vous en êtes, si vous apportez des éléments d'information, de réflexion, après à vous de vous en saisir. C'est pas comme on m'avait demandé de le faire au début, on m'avait demandé est-ce que vous voulez faire une intervention sur l'histoire du service militaire. En même temps, je veux bien. Le bouquin qui fait 300 pages, bon, c'est un peu court. Après, j'ai vu que c'était encore annoncé tout à l'heure sur la porte, c'est une erreur. On m'avait demandé problématique service militaire à un métier. C'est un choix qui a été révélé le 22 février 1996 par ce discours du président antenne 2 TF1 à la fois pour dire bon, le service militaire a fait son temps, c'est inégalitaire, ça ne sert plus à rien. Le service militaire, tel qu'il est dit, sera aboli. Un grand mot, abolition. Il y a eu deux grands mouvements abolitionnistes dans l'histoire, la peine de mort, l'esclavage. La peine de mort, l'esclavage, et des mauvais esprits pourraient penser que ça renvoie effectivement à des lieux où on n'a pas forcément toutes les libertés, d'une part, et où d'autre part, ça préparait autrefois, ça ne prépare plus, mais la caserne préparait à faire la guerre. Risquer de tuer, devoir de tuer. Au-delà de ça, moi, il m'apparaissait le plus important, et je crois que c'est ce qui a été retenu, une contribution autour de la fin du service, la fin du service, ou comment finir rapidement. Et je ne vais pas refaire l'histoire des fins du service. J'ai vu votre argumentaire, je suppose que vous l'avez concocté à plusieurs, qui fait 17 pages, sauf erreur, dense. Donc ça a été travaillé, vous avez vu effectivement ce qu'il en était dans les pays anglo-saxons. Grande-Bretagne, États-Unis ont les premiers supprimé le service militaire obligatoire, ce qui en a été en Europe, en Belgique, aux Pays-Bas, où les délais ont été très courts. Nul pays au monde n'a une phase de transition aussi longue, 6 ans. Aucun pays. Alors qu'une mobilisation peut se faire vite, une démobilisation ne prend pas 6 ans. C'est vrai qu'il en fallait le temps d'avoir des engagés, de recruter effectivement en fonction de profils déterminés, de remplir les besoins. C'est, vous l'avez noté dans votre argumentaire, à juste titre, c'est effectivement le vieux discours de l'armée de terre, du chef d'état-major de l'armée de terre. Vous ne pouvez pas l'appeler, on en a besoin. Bon. Besoin en termes d'effectifs sur l'erreur, c'est 20 000 dans l'an 2002. Ça ne représente pas des besoins très précis. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand on étudie un peu l'histoire, on se rend compte que, au moins pendant tout le XIXe siècle et le XXe qui se termine, avec une généralisation du service militaire progressif, je ne vais pas y revenir, des formes souvent très inégalitaires, l'état-major, quel qu'il soit, et particulièrement dans l'armée de terre, parce que c'était lui qui était gros consommateur d'hommes de troupes. La marine, l'armée de l'air étaient des armes beaucoup plus techniques, donc professionnalisées. Et elles ont fini en professionnalisation sans problème, ou pratiquement, quoi. Ça fait longtemps qu'ils étaient passés, et où, selon la parole forte de Charles Hernu, les appelés servaient à tout, et au-delà de valer d'armes, valaient tout court. Charles Hernu disait ça avant d'être ministre de la Défense. Même qui disait avant d'être ministre de la Défense qu'il fallait supprimer le service militaire. C'est pas le seul à avoir eu un double discours selon le lieu d'où il parlait. Bon. J'ai montré dans la caserne, peut-être sur deux pages, un appris comment la position de notre honorable chef de l'État avait pu, au fil du temps, évoluer selon le public auquel il s'adressait. Est-ce que c'était Tintin, le journal des jeunes de 7 à 77 ans, où là, il était pour la suppression des services, si c'était une réunion du RPR ou là, et bien, ça dépendait de la saison, parce que Fillon était pour, parce que d'autres étaient... Bon, Mesmer était pour, d'autres étaient contre. Bon. Et c'est vrai que quand il a été en charge de d'abord premier ministre et à deux reprises, il n'a rien fait. Donc c'est très évolutif, mais chaque fois les chefs d'état-major, qui est particulièrement en armée de terre, disaient qu'il nous faut davantage d'hommes, le service militaire est trop court. Vous ne pensez pas, vous allez le réduire de 8 à 7 ans? C'est sérieux, hein? C'est trop court. Vous allez le réduire de 7 à 5 ans, mais vous n'y pensez pas. On ne pourra pas faire avec former les soldats l'esprit militaire. L'esprit militaire et l'esprit d'obéissance, c'est un peu comme les poupées russes. Alors que, effectivement, avec des armes relativement simples, c'était le fusil, il n'avait quand même pas besoin de plus de 6 mois pour former un soldat. On est dans la salle Jaurès. On aurait pu être salle Louise Michel, Potier, ou Francisco Ferrer, qui sont dans le même voisinage. Bon, Jaurès, vous le savez, a été la tête à penser des socialistes sur l'armée, et particulièrement sur la caserne, sur le service militaire pendant longtemps. Or, comme j'ai eu l'occasion de l'écrire à plusieurs reprises, Jean Jaurès n'a jamais été favorable au service militaire obligatoire. Il était élu pour un système à la Suisse de milice, un système de formation des citoyens qui était patriote. Internationalisme et patriote. Cela étant, il n'était jamais pour ce qu'il appelait l'encasernement des masses. L'encasernement, même pour 3 mois ou pour 6 mois, lui paraissait quelque chose d'inconcevable. Ses héritiers l'ont mal lu dans le texte, mais c'est vrai que la pensée, là, de la gauche a peu évolué depuis l'apparition du maître ouvrage de Jean Jaurès, qui était l'armée nouvelle. Le problème, c'est que l'armée nouvelle a apparu en 1910. Bon. Chirac et la fin du service militaire. Bon. Pourquoi? Se poser la question de la fin du service militaire, je le disais tout à l'heure, c'est pas que Chirac était farouchement pour en finir avec l'obligation de l'institution. Ça fait longtemps que le service militaire aurait pu disparaître, que son utilité militaire était en déclin. Pourquoi? Technicité, professionnalisation, j'évoquais tout à l'heure, le fait nucléaire et technologique a complètement bouleversé, et depuis la fin de la guerre d'Algérie, 62, on a eu effectivement en France un autre modèle d'armée. Le service militaire était condamné dès le sortir de la guerre d'Algérie. Il n'a pas été pour des raisons politiques. Et pas pour des raisons militaires. Hein. C'est que le général de Gaulle, qui aurait pu le faire, et qui avait écrit vers l'armée métier, alors, contrairement à ce qu'on a pu lui faire dire, c'est parce qu'il avait écrit vers l'armée métier en 1934 qu'il était favorable uniquement à l'armée métier. Il était favorable à des régiments professionnels pour les chars. Il n'était pas, lui, pour la suppression du service militaire, contrairement à ce qu'a pu dire Chirac. Bon. Mais on a été dans une situation où on sortait de la guerre d'Algérie, la gauche critiquait De Gaulle pour sa bombinette, qui était la bombe atomique, la force dissuasion. Il était critiqué à droite pour la manière dont, effectivement, il avait accordé l'indépendance de l'Algérie, l'OS et l'ombre des soldats perdus pesait sérieusement. Il n'en a rien fait. Pour des raisons de consensus politique. Et on s'est demandé, les stratèges et les généraux se sont demandé à quoi sert le service militaire. On l'a maintenu, on ne savait pas trop quoi en faire, il n'y avait pas trop de contestation, il y en a eu en 73, la manifestation par rapport aux sourcils, la loi de Bray, quand effectivement les sourcils ont été mis à mal. C'était 5 ans après 68, alors qu'en 68, où il y a eu un nombre de mouvements, en tout cas fortement anti-autoritaires, la conscription n'avait pas été remise en cause. On arrive en 95, Chirac est élu, il y a eu une situation où plus personne ne croit au service militaire, à part les politiques dans leur discours officiel. Mais je ne sais qui a rédigé ça, j'ai vu qu'il m'avait attentivement lu, ça m'a fait plaisir de voir que la situation de Jacques Bouillon, je ne sais qui a écrit ça, mais ça m'a paru fort sympathique, parce que Jacques Bouillon, qui avait été ministre, secrétaire d'État à la Défense, pendant 2 ans, et qui dont par terre, très choisi, hein, c'était que des généraux et dans le groupe Armée Défense, déclare dans une revue très confidentielle, destinée uniquement aux militaires, le tout c'est de se procurer les documents officiels, ça existe, bon, c'est accessible. Dit, bon voilà, en substance, l'égalité du service national, c'est pas égalitaire, j'y croyais pas, il est plus en plus inégalitaire. J'ai essayé pendant 2 ans, alors que j'étais ministre, de dire qu'il fallait effectivement, et de me convaincre, et de convaincre sur le fait qu'il soit égalitaire, qu'il ne devait l'être. En fait, je ne croyais pas tellement ce que je disais. C'est effectivement une belle parole, c'est rare qu'un ministre avoue comme ça, mais encore une fois, il n'était plus en charge de sa fonction, c'est effectivement, il ne croyait pas son discours. Donc l'utilité militaire du service mise à mal. Et pas uniquement en France, dans tous les pays occidentalisés. À quoi servait le service? La fonction avouée, c'était en termes de consensus politique, idéologique. On croyait qu'effectivement, ça créait un lien armée-nation, un consensus autour de l'appareil de défense. Grande crainte, effectivement, de nos stratèges que l'esprit de défense, qui était fort recherché, ne soit plus là. Et on pensait que le service militaire était vraiment le vecteur de cet esprit de défense. Alors qu'à l'inverse, nombre d'observateurs avaient pu constater, j'avais repris quand même un certain nombre d'exemples là-dedans, comment dès les années 60, on tournait en rond dans les cours des casernes, l'ennui inouminé, on perdait son temps, mais la perte du temps était organisée aussi, c'est-à-dire que l'ennui ou la perte du temps sont aussi des modes de gestion des hommes, hein. Puisque du temps perdu dans un couloir d'une caserne ou à bord de la divine, qui contrôle le temps, qui est maître du temps? Pas d'avoir lu la science-fiction pour savoir que celui qui ordonne effectivement, y compris cet ennui, et qui le gère, est maître du temps, comme il est maître de la chevelure, de l'uniformité des hommes qui travaillent en face de lui. Bon, donc c'est institutionnel possible. Chirac, effectivement, avait été poussé par une partie du RPR à supprimer le service militaire. Il n'a pas été élu avec une position de je le supprimer. Il parlait de généralisation du service civil. On se disait, comme en Allemagne, on pourra en parler. L'Allemagne est un des grands pays européens qui maintient le service militaire. Mais est-ce le service militaire ou le service civil est quand même ça? Il y a l'avantage d'appeler au service civil, prétendument objecteur, en tout cas qui bénéficie du statut d'objecteur en Allemagne, qu'il n'y a d'appeler en armes sous les drapeaux. Si on supprimait les objecteurs en Allemagne, ça créerait un certain problème dans l'emploi, les hôpitaux, l'aide aux personnes âgées, et j'en passe. C'est ce qu'on appelle des emplois de substitution. Appeler bouche-trou. L'utilité des appelés, c'était effectivement bouche-trou. Alors, il y avait des fonctions, le ISNAR, le spécialiste armé du monde, qui a un peu la voie de son maître, à la différence de Mercher à Libération, son alter ego, c'est-à-dire qu'il fait le porte-parole de l'institution. Lui n'arrête pas de faire des papiers sur « Attention, les armées ne vont pas s'en sortir, ils sont débordés, vous ne vous rendez pas compte, le Kosovo, tout ça à gérer. Regardez la guerre du Golfe, vous notez dans votre argumentaire. La guerre du Golfe, où effectivement, pour envoyer la division d'Aguet 12 ou 13 000 hommes, l'armée française était complètement déstabilisée. Or, en termes effectifs, elle était 570 000 à l'époque. Bon, l'armée anglaise qui avait 320 ou 350 000 hommes avait sans problème envoyé 35 dans le Golfe. C'était une erreur de les envoyer dans le Golfe. Tout à fait d'accord. Mais c'était une armée de sureffectifs qui était incapable de se gérer. Donc Chirac supprime, dit qu'il abolit en même temps. Il avait consulté un comité stratégique, il lance un faux grand débat, parce que en termes de démocratie, c'était lamentable. La décision a été prise, en tant que chef des armées, mais. Et si on était pris, ils ont fait voter la loi de programmation avant la loi sur le service militaire. Ça peut être mettre la charrue devant les bœufs. C'est-à-dire qu'on décide d'abord des moyens budgétaires avant de décider des orientations. c'est un peu singulier en termes politiques. Ensuite, on ouvre le débat sur service militaire, service civil, le livre blanc de 1994 et le livre blanc sur la défense. Elle fait valoir l'intérêt du service civil pour justifier, essayer de maintenir, de préserver le service national. Avec une réalité profonde des protocoles de tout ce qu'on veut. Bon. Je ne parle même pas de la différence de statut et de durée entre les objecteurs, 20 mois de service obligatoire, et les autres qui faisaient 10 mois, et quelquefois, après le service national vigne, qui eux faisaient 10 mois, et dans la même fonction, les mêmes statuts. Bon, c'était l'aberration complète. Et d'après ce qui m'a été dit, alors je ne sais pas si c'est valable, mais de quelqu'un qui était membre du comité stratégique, c'est-à-dire un des généraux qui participait au conseil de réflexion et dans la prise de décision de Chirac, il aurait été effectivement irrité par le fait qu'à peine aurait été pris le pouvoir, il aurait été sollicité par les amis et l'arrière-garde sur dit j'ai mon cousin, j'ai mon petit-fils, j'ai mon neveu qui. Alors, il y a deux choses, c'était d'une part la réforme, vous savez très bien ce qu'il en est du P3 du P4, hein, bon, qui permet de gérer la ressource, comme ils disent. D'autre part, les affectations individualisées qu'ils appellent les. Je sais plus, ça a un nom, ça, les affectations individualisées, je sais plus. Alors, ce qui sont, hein, DIA, merci, décision individuelle d'affectation, merci, DIA, et qui sont gérées soit au niveau de la région militaire, soit directement au niveau du ministère, et qui, bon an, mal an, composaient quand même 70 à 100 000 bons hommes. C'est énorme. Énorme, c'est-à-dire on était là aussi en pleine inégalité. Alors quand vous pointez effectivement l'inégalité, c'est pas quelque chose de nouveau. C'était l'aberration. Il héritait, donc il supprime, il abolit. Mais que faire? Il est avec un ministre Millon qui lui voulait un service civique obligatoire pour tous, y compris pour les filles. Millon n'a pas gagné, il a eu un devenir que vous connaissez à Lyon avec des alliances un peu bizarres. Là-dessus, bon, vous vous rappelez très bien l'épisode de la loi qui est sur le point d'aboutir avec le rendez-vous citoyen de Saint-Jean. C'est que faire? On supprime, mais la peur du vide, quoi mettre à la place? Comme s'il fallait mettre quelque chose à la place.
Ceci dit, concrètement, par rapport à toutes ces absurdités qu'on constate depuis la fin de la guerre d'Algérie, clairement, bon, il y a eu des évolutions militaires logiques qui sont arrivées, qui ont été des prises de pouvoir politique, des décisions politiques plus qu'autre chose, qui n'ont pas forcément fait que des amis au niveau du gouvernement. Bref, après, on a eu une succession de décisions, de choix stratégiques, de choix politiques, qui à chaque fois étaient...
Par rapport au service,
même par rapport à la question de l'armée, où derrière, finalement, il y avait un grand vide, un grand creux, et ça, on constate encore assez rapidement. Le truc, c'est pourquoi il n'y a jamais eu... Enfin, on en est là aujourd'hui, et on en est toujours là encore. Pourquoi il n'y a jamais eu une avancée, quelqu'un qui se soit mis dans le bain en disant, bah tant pis, je vais mouiller ma chemise, mais en disant, on règle ça une fois pour toutes. Parce qu'il y a eu des rapports, il y a eu un nombre incalculable de rapports.
Sur le service national, le rapport Chevaux, le rapport Saint-Vincent, les rapports qui a fait votre dossier, mais qui a étudié effectivement les rapports parlementaires et qui sont nourris, puisqu'il y a eu de nombreuses auditions, c'était plus personne n'y croyait. On faisait semblant de croire à l'institution du service obligatoire, mais les gens n'y croyaient pas. Si ce n'est qu'on était dans une position de double langage, si ce n'est aussi que la défense en France, ou les choix de défense, les choix de politique militaire, il n'y a jamais eu de grand débat. Personne n'a décidé, on va faire la bombe atomique. Personne. Ça n'a pas été soumis à débat politique réellement, référendum. Ce sont des scientifiques qui ont construit le produit, qui ensuite l'ont proposé, tel professeur Nimbus, à les militaires, et on dit, oui, on pourra peut-être en faire quelque chose. Bon, on expérimente ça dans le secret, et c'est, mais dès la guerre d'Algérie, et on officialise 4 ans après, en disant, bon, on se dote d'une force de frappe, et ça fait 4 ans qu'on l'a construit, tu vois. Bon. Sur le service militaire, il aurait été intéressant d'avoir, je ne sais pas si c'était intéressant d'avoir un référendum, vous avez vu le référendum récent, il faut dire que la question, là, était importante, hein, 5 ans, 7 ans, bon. Mais c'est vrai qu'un référendum sur pour ou contre le service militaire, je pense qu'il y aurait une mobilisation. Moi, j'ai le souvenir, il y a déjà 10 ou 15 ans, une émission sur TF1, que je ne referai plus parce que les grands guignols avec De Chavannes, spécialement mardi à l'époque déjà, il revient avec ça, sur pour ou contre le service militaire. Et où j'étais face à Pinatel, le général Pinatel, qui commandait CRP à l'époque. Non, ancêtres et la Nikon. Et ça m'avait amusé un peu. En plus, lui, il était venu avec un spéromium propre, et moi, j'étais venu avec quelqu'un qui était à la fois déformé P5, et c'est rare, hein, P5.
C'est pas mal.
Et donc, qui t'a raconté comment il s'était fait réformer. Et puis, comme il s'est fait injurié parce que moi, j'étais... on a valorisé mon côté, j'avais été objecteur, j'avais été insoumis, j'avais pris des risques, lui il était... Alors, il a dit oui mais je suis aussi pacifiste, j'ai demandé mon statut d'objecteur, je suis objecteur. Il voyait l'été si ça avait plus d'été. Mais il y avait eu, tu vois, le nombre d'appels, des milliers d'appels, puisqu'il y avait des histoires d'appels téléphoniques pour ou contre, bah, majoritairement à 80% j'étais pour la suppression des services militaires. Quoi. Et déjà il y a 12-15 ans. Hein. Cela étant, je crois qu'effectivement il n'y a pas eu de débat politique. Et la sortie, ce que vous pointez sur... L'échéance de 6 ans, elle a été liée, là moi c'est mon hypothèse et on verra si les faits le confirment, mais c'est pour ça que c'est intéressant et que je vais peut-être en terminer là-dessus. Parce que c'est intéressant d'avoir du débat entre nous, pour voir comment évoluer. Parce que l'échéance de 6 ans, c'est tout simplement que l'addiction a été prise en 96, que 96 plus 6, ça fait 2002. Et que 2002, il y a une autre échéance, celle de l'élection présidentielle. Que je suis, je dirais à peu près convaincu. Ouais, je suis convaincu que l'armée n'a plus besoin d'appeler. Enfin, je suis convaincu. Quoi que dise le chef d'état-major, enfin, ils pleurent toujours, ils ont pas assez de sous, ils ont pas assez d'hommes, ils ont pas assez de matériel.
Ouais, je crois que vous procédez converti, hein.
Oh non, mais bon, c'est ça. L'inutilité des conscrits, des derniers conscrits, elle est avérée. Et ça, vous avez raison de le mettre en avant. Il faut, moi je pense, et bon, ce sera argumentaire, et en tout cas par rapport aux premières pétitions qui ont pu apparaître à la fin de l'année dernière sur le web, je trouve que je me sens davantage en empathie, en adhésion avec les arguments que vous développez. Je ne sais pas si j'étais maladroit, mais je me rends gueule. C'est vrai que j'ai été beaucoup sollicité par les médias au printemps pour me demander de libérer la France Inter, qu'est-ce que j'en pensais. Mais avant l'existence des 100 nous, quoi. Et c'est vrai que c'est pas moi j'ai un vrai travail, une carrière, tandis que pour les autres, hein. Et ma carrière est plus importante que celle des autres, on n'était même pas la génération CDI, là. C'est vrai que ça faisait un peu élitiste et ça me rappelait quand même pas trop des décennies au 19e siècle où les jeunes qui avaient les moyens, enfin dont les parents avaient les moyens, pouvaient, y compris devant notaire, se payer en passant. C'était quand même un peu élitiste et les bourgeois pensaient facilement bon, le service militaire c'est pas bon pour nous, on a autre chose à faire, ouais. on a une profession, on a une carrière à défendre, les paysans, les ouvriers, ils peuvent toujours y aller à notre place, quitte à les payer. Vous avez sérieusement évolué et j'apprécie effectivement cette évolution.
On pourra revenir là-dessus avec l'évolution par rapport à un constat en fait
et
qui existait.
Le problème c'est que les médias préféraient
être
sinon.
Oui, exactement.
Et ça, on est mais attends, on pourra discuter justement des médias et de je crois aussi que, comment dire, le fait, comme vous l'annoncez maintenant, peut-être que j'ai compris, hein, c'est en tout cas, ça annonce un peu dès le départ. Créé en mars 2000, le collectif sans nous demande la fin anticipée immédiate du service national obligatoire de 10 mois, je signe demain. Et c'est que là-dessus, moi j'ai le souvenir d'avoir discuté avec certains d'entre vous qui sont peut-être plus là, hein, à plusieurs reprises au printemps, sur par exemple pourquoi demander la JAPD alors que personne n'y croit, mais même le général Vincent qui est le service national et lequel j'ai fait un truc à l'école militaire là, il n'y a pas longtemps. Mais personne n'y croit. Et si on leur demande d'arrêter, ils arrêtent. Et on discute effectivement de la fin du service militaire. Et on terminerait par là. Parce que c'est pas pour dire que j'ai de mauvaises fréquentations, uniquement publiques. Hein. Mais parce qu'ils n'y croient pas, y compris au délai de 6 ans. Rencontre donc avec ce gars autour d'un micro, et puis après on parle hors micro en France culturelle l'année dernière, avec un gars qui avait participé au comité stratégique, enfin général qui avait participé au comité stratégique. Que je n'en vois pas, qui, moi je dis, mais l'échéance des 6 ans, c'est pas possible, vous travaillez sur autre chose. Il dit oui, mais on peut pas le dire. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé effectivement sur une hypothèse de raccourcissement du service. C'est-à-dire que le problème, il est politique, et c'est là où vous pouvez intervenir à faire pression. C'est qui prend l'initiative? Est-ce que c'est le chef de l'État ou c'est le chef du gouvernement? Comme dans la cohabitation actuellement, il se muscle, vous êtes au milieu de ça. Et vous bousculez ça. Et Richard, il est un peu crispé. Alors là, je peux vous dire, de tous côtés, et tous les gens qui... Richard, il est crispé.
Comprends pas ça.
Ah oui, non, mais ça, c'est... Non, mais c'est... Il est resté. Non, mais il veut tout verrouiller, la Nikon, enfin, bon, il veut tout verrouiller. Cela étant, au-delà de l'enjeu Richard Pilès, vous êtes maintenant dans qui décide la fin anticipée du service. Sachant que l'échéance officielle, c'est fin 2002, que... On verra, on peut parler une bouteille de whisky ou une bouteille d'eau, parce qu'il paraît qu'elles sont, ne boivent que de l'eau, je sais plus, vous les copains qui interviennent.
Ce qui est ça.
Mais à France Culture, le 14 juillet, le copain que j'avais en face maintenait qu'il buvait de l'eau. Alors le voisin a beaucoup ironisé. Bon. Et.
Bah, avec le retard, moi.
Mais. J'ai tendance à penser que si vous les forcez un peu plus avec effectivement un mouvement d'opinion, quoi, l'échéance ce sera 2001 et pas fin 2002.
Bah, bon. En plus, avec les présidentielles qui vont arriver, c'est un argumentaire supplémentaire pour les jeunes.
Voilà, mais d'où qui prend l'initiative hein? Qui prend l'initiative?
Tout à fait. Ben. On va rebondir donc sur les idées soulevées par Bernard, justement, et puis on reviendra enfin justement sur. L'arrivée aussi du collectif avec Cédric et pourquoi, d'où c'est venu, de quoi c'est né et pourquoi la situation à la base était effectivement élitiste, même si effectivement on peut se dire qu'avant même la protestation, avant même l'annonce de la fin du service national, c'est justement l'injustice qui était élitiste parce que c'était les personnes haut placées qui avaient la possibilité de se faire exempter de manière outrancière. Donc là on est encore dans une autre figure de personnes qui avaient accès non pas à l'information et et comme on a pu le voir sur Internet avec la naissance du collectif, mais qui pouvait avoir accès à des contacts militaires et qui pouvaient leur permettre justement d'éviter beaucoup de choses. Donc là, on y arrivera.